Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Étienne Dao, bonjour.
Bonjour.
Étienne Dao, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous êtes né à Oran en 1956. Vous êtes issu de la scène rock rennaise des années 80. Vous êtes reconnu comme une figure majeure de ce que l'on appelle la pop en France. Mais d'une manière plus générale, de la chanson française, vous avez reçu de nombreux prix, de nombreuses récompenses, telles que les Victoires de la musique, de l'album Pop Rock pour l'invitation en 2007, notamment parmi beaucoup d'autres récompenses et prix. Vous avez eu de nombreuses collaborations avec des artistes tels que Jacques Dutronc, Alain Bachung, Françoise Hardy, Jacques Naud, Daniel Darc, Jeanne Moreau, Brigitte Fontaine, enfin Marianne Faithfull, Vanessa Paradis, Dominica et j'en passe. À votre actif, vous avez 13 albums, dont Tomber pour la France, Pop Satori, Eden, Corps et âme, L'invitation, Le condamné à mort avec Jeanne Moreau, Les chansons de l'innocence retrouvée et Blitz, qui est ce dernier album qui est sorti en 2017, c'est bien ça?
C'est ça, oui.
Voilà pour la présentation. Alors, pour commencer cet entretien, tout simplement, en fait, on va partir ces bases simples de savoir quels sont vos premiers amours musicaux. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de cette formation, d'où s'est né tout ce parcours de musicien, d'artiste. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous parler de ces premiers morceaux qui vous ont fortement marqué dans votre jeunesse, lorsque vous n'étiez pas encore reconnu en tant que musicien et qui ont été un appel?
Alors en fait, mes parents ont toujours été très, très fans de musique. Il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison, beaucoup de disques. Mon père amenait beaucoup de disques à la maison. Donc ça allait du jazz à la variété ou au rock. Ma mère était une fan de Elvis Presley, de Frank Sinatra. Donc il y a eu beaucoup de musique chez moi, comme ça, tout le temps. J'ai des sœurs plus âgées qui écoutaient Elle les Yéyés. Et puis elles ont commencé à écouter la pop anglo-saxonne. Donc elles ont eu toujours un petit peu d'avance sur moi. Et donc moi, je récupérais à chaque fois les 45 tours. Quand j'étais en Algérie encore, mes tantes avaient, et même à Paris, avaient un établissement où il y avait un jukebox. Et donc je récupérais tous les 45 tours, donc j'étais très au fait de tout ça. Et la musique a toujours été dans ma vie. On me rapporte que quand j'étais même tout petit, j'avais 2 ans, je savais exactement quel disque je voulais. Et puis il y avait comme un espèce de meuble à l'époque, avec un couvercle qui se soulevait. Et je montais sur un tabouret, je mettais moi-même les disques, mais vraiment à un âge très, 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 très jeune. Mm-hmm. Donc ça a toujours été là, il y a toujours eu cette fascination. Puis après, j'ai continué à écouter beaucoup de musique. J'ai commencé à aller en Angleterre, j'ai commencé à écouter beaucoup de rock et de pop anglo-saxonne et aussi américain. Mm-hmm. Les grandes histoires d'amour avec le Velvet Underground, avec Syd Barrett, le leader de Pink Floyd. Et puis après, toute la mouvance new-yorkaise, c'est-à-dire Television, Blondie, Suicide, Patti Smith, et tout, enfin, toute cette vague. Et la vague française aussi, avec Stinky Toys, Taxi Girl. Enfin, mm-hmm. Voilà. Marie et le garçon. J'en oublie plein. Je suis un grand amoureux de musique et je suis très, très, très impressionné par la musique des autres. Au sens où ça m'imprime, quoi. Ça rentre en moi.
Dès le début, dès la plus tendre enfance, d'une certaine manière, vous êtes un passionné de musique.
Je suis un passionné de musique. J'écoute beaucoup les autres. C'est comme ça, quoi. Ça me passionne. C'est une communication, une vibration incroyable, la musique, je trouve. Ça rassemble, ça apaise. Ça dorlote. Enfin, ça accompagne. Ça accompagne la vie, quoi. Je n'ose même pas imaginer ce que serait devenu sans musique.
Quel était le contexte de votre enfance, justement, dans laquelle la musique avait cette place si importante?
Alors, le contexte était évidemment le contexte de la guerre en Algérie. qu'on appelait pudiquement les événements. Alors, c'était une guerre très brutale. Et donc voilà, quand on est un enfant, on s'accoutume à tout. Hein. C'est jouer sous les bombes. C'est un peu ce qui s'est passé. Avec la sensation quand même que les adultes sont très perturbés, angoissés par ça. Et essayer de vous protéger, mais malgré tout, on ressent cette chose-là, des éponges. Mais quand même avec cette légèreté de l'enfance, à savoir qu'on avait complètement intégré le danger en permanence, à savoir qu'avec mes sœurs, on rentrait de l'école en enjambant des cadavres, avec la cervelle qui sortait de leur tête. C'est arrivé très fréquemment, j'en parle très régulièrement avec ma sœur. À partir d'un certain moment, comme Oran était devenu très dangereux, on est parti habiter chez mes grands-parents dans un village paradisiaque qui s'appelle Cap Falcon et qui, à ce jour, est resté en moi comme un espèce de fantasme édénique. Et je n'y suis jamais retourné parce que je sais que je n'y retrouverai pas ce qui m'a construit. Et puis, on se construit souvent aussi avec des choses... de l'imaginaire, en fait. Je me suis construit sur le souvenir de ça et la confrontation avec la réalité, je redoute qu'elle soit fatale, quoi.
Est-ce que vous pourriez nous parler aussi de ce... Alors, ensuite, vous êtes arrivé en France, ouais. C'est bien ça, à Reims, me semble-t-il, ouais. Au début. Et ensuite, vous êtes allé à Rennes, vivre à Rennes, ouais. C'est ça, qui correspond à la période de votre adolescence. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces musiques que vous écoutiez? Alors, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais de ces musiques-là, précisément, que vous écoutiez à Rennes.
Alors, je suis arrivé à Rennes à l'âge de 8 ans, donc j'ai eu aussi toutes les musiques de l'enfance, les yéyés, la musique des années 70. Tout ça m'a imprimé. Parfois même, je peux écouter une chanson vraiment que j'aime pas du tout. Je me souviens des textes presque par cœur. C'est effrayant comment la mémoire capture des choses parfois inutiles. Et donc j'ai écouté toute la musique des années 70, enfin tous les grands groupes qui nous ont marqués. J'étais avec quelques amis, j'avais des amis jumeaux, François et Benoît Ledez, avec lesquels j'ai renoué contact, et qui étaient très érudits. Donc ils m'ont vraiment tenu la main et accompagné dans ma recherche. J'avais très envie, en tant que petit immigré, j'avais la sensation que la culture me sauverait, en fait. Et j'étais avide, j'avais faim de ça. Debout de lire, de voir des films, d'écouter des musiques qui allaient me faire grandir, tout ça avec un espèce de snobisme. Parce que...
De dandisme.
Oui, non, mais d'essayer de ne pas écouter ce que la masse écoutait, quoi. D'accord. Voilà. D'essayer de se singulariser par des artistes, des films de lecture underground, des artistes pas connus. Et en même temps, voilà, ça va former... mon goût pour la lecture, ça a fabriqué mon oreille, enfin ça l'a façonné. Ça a été des années de construction très très importantes, véritablement.
Donc c'était une sorte d'appel, hein, d'une certaine manière, à la liberté, c'était à travers la musique notamment.
Hein, oui, c'était une manière de me sortir aussi d'une période de ma vie qui n'était pas très drôle, en fait, on va dire. L'adolescence un petit peu grise. Et la musique m'a vraiment véritablement sauvé, quoi. La lecture aussi, mon goût pour la culture, enfin, le fait d'avoir besoin de se nourrir en permanence, ça m'a fait grandir.
Vous me disiez, on a pu discuter en aparté, vous me disiez que voilà, vous êtes à l'origine d'une nature assez timide, voire très timide. Est-ce que vous pourriez me dire quels ont été ces moments fondateurs, justement, de ces premiers pas au moment où vous affirmez, justement, comme chanteur, musicien? Est-ce que vous pourriez me parler de ça?
Alors, en fait, je ne sais pas si c'est de la timidité ou de l'intense réserve qui a tendance à me quitter de plus en plus, Dieu merci. Mais j'étais très réservé, j'étais toujours celui qui était dans les coins, quoi. J'étais là, je participais à ce qui se passait, mais j'étais un peu en mode observation. Je n'étais pas celui qui prenait la parole ou qui montait sur la table. Non, j'étais assez réservé. Et, à l'époque, il y a Richard Dumas qui est devenu ce photographe qu'on reconnu et que tout le monde connaît maintenant. Il faisait de la musique et il voulait que je joue, que je chante. Il trouvait que physiquement, je correspondais à l'image qu'il voulait avoir pour son groupe. Moi, je travaillais dans un magasin de disques. Il était venu acheter des disques chez moi. Et il trouvait que j'avais la tête parfaite pour chanter. Donc, ça ne m'était jamais venu à l'idée d'être devant ou de me montrer. Donc, je lui disais, oui, je viendrai à la répétition. Évidemment, je ne suis jamais venu. Il venait me chercher chez moi et tout. J'étais derrière la porte, je n'ouvrais pas. Je lui ai avoué des années après. Et puis, je faisais quand même des chansons. J'écrivais des chansons sans le dire à personne. J'ai commencé à écrire des chansons vers l'âge de 15 ans, par là, que j'ai gardé dans des cahiers, sans penser vraiment du tout qu'un jour je pourrais les interpréter. Enfin, je ne m'autorisais pas du tout à penser qu'un jour je serais moi devant. Voilà. Et puis, il y a eu un concours de circonstances. J'ai organisé un concert d'un groupe qui s'appelle Stinky Toys, avec Marc Itzad. Et j'ai organisé un concert, salle de la Cité à Rennes, en 1979. J'étais étudiant. J'ai embarqué dans cette galère financière deux amis à moi. On a mangé des pâtes et des patates pendant des années après. Mais ça a été un moment fabuleux, quoi. C'était vraiment le moment clé. Parce que... j'avais envie de les voir. Je me suis payé ce rêve, en fait. Et il y a eu une tempête de neige après le concert. Une tempête miraculeuse, en fait, parce qu'ils n'ont pas pu rentrer à Paris. Et donc, comme je n'avais pas les moyens de leur payer un hôtel, en fait, ils sont tous venus chez moi. Donc, on s'est retrouvés dans mon petit appartement d'étudiant, sans chauffage. Donc, il faisait très froid. Donc, il fallait boire beaucoup pour se réchauffer. Et l'alcool aidant, on écoutait de la musique. Et j'ai rencontré avec les Stinky Toys, surtout avec Elie Medeiros et Jacques Nau, vraiment une famille d'esprit, quoi, des amis pour la vie. Et je pressentais, j'entendais dans leur musique quelque chose qui me ressemblait, mais j'ai eu la certitude de cette chose-là quand on s'est rencontrés, qu'on était pareil. Et c'était la première fois que j'ai rencontré des gens que je sentais aussi proches de moi. Parce que même si j'avais des amis à Rennes que j'aimais beaucoup, avec lesquels je partageais plein de choses, je vous laisse les imaginer. Musicalement, je pouvais aimer des choses extrêmement pointues, et puis tout d'un coup, des choses de chansons françaises. Ou alors, ça allait, je ne sais pas, du Velvet Underground, de Beach Boys, par exemple, ou à Françoise Hardy. Et à l'époque, j'étais dans un milieu très, très snob aussi, par rapport au goût et par rapport au code du rock, qui était extrêmement strict. Donc, en fait, j'étais très différent, en fait. Et quand j'ai rencontré les Toys, j'ai senti qu'il y avait des gens qui me ressemblaient vraiment. Et voilà, je leur ai dit pour la première fois, j'ai formulé la phrase que je croyais cataclysmique, que quand j'allais dire... Je fais de la musique, le sol allait s'entrouvrir et que j'allais être englouti. Et je l'ai dit, et ça paraissait tout à fait naturel. Et à partir de ce moment-là, j'ai montré mes chansons et je les ai envoyées à Elie. Et ils m'ont dit, voilà, fais-le, tu peux le faire, c'est bien.
C'était une manière aussi de dire, je veux être avec vous. Vous,
oui.
Frère de son, de sensibilité,
ah, ouais.
Frère et sœur de...
Oui, ouais, ouais, c'était ça. C'était vraiment trouver sa famille d'esprit, quoi. Et c'était grisant, véritablement. C'est bon quand ça arrive. Parce que j'étais quelqu'un d'assez solitaire, j'arrivais pas à trouver mon groupe, vraiment.
Vous nous parliez de Rennes. Il y avait un contexte aussi, une forme d'émulation, mm-hmm. peut-être, à Rennes, en matière de musique. Est-ce que vous pourriez nous parler, justement, de ce moment-là, des années 80 à Rennes ?
Oh, c'était fantastique. Hein. D'abord, il y a eu Hervé Bordier qui a eu cette influence considérable, à savoir qu'il organisait des concerts. Et donc, je l'aidais de temps en temps, quand il y avait un artiste qui me plaisait. J'allais l'aider, je collais des affiches. J'avais la sensation de me rapprocher de ce monde de la musique. Et il a produit un jour un disque d'un groupe dont il s'était entiché, et c'était Marc Itzad. Et donc, il m'a donné des exemplaires. Moi, j'avais commencé à partir en Angleterre depuis mon adolescence. Et donc, j'avais des contacts avec l'Angleterre, pas mal de contacts. Et donc, je suis parti avec le 45 tours sous le bras. Et je l'ai amené. Et le disque, j'ai réussi à le faire passer. C'est quelqu'un qui s'appelle John Peel, qui était quelqu'un d'extrêmement influent à l'époque. Et le disque a eu aussi quelques critiques dans la presse écrites. Donc, je suis revenu à Rennes un peu triomphant. J'avais la sensation d'avoir contribué, moi aussi, à quelque chose dans la musique, quoi. Et c'est Marquis de Sade, vraiment, qui a tout d'un coup galvanisé tout le monde. Et puis, comme on les connaissait, on avait la sensation, ça rejaillissait sur nous, c'était de la lumière sur nous, vraiment, sur tout le groupe. Puis, il y a eu Les Nus, Fracture. Il y avait vraiment une espèce de bouillonnement, comme ça. Il y avait plein il y avait aussi plein de figures. Il y avait Pierre Fablet, qui est quelqu'un de très, très original, qui faisait des dessins, de la musique, qui était vraiment quelqu'un de très particulier. Il y avait Stéphane Placier, il y avait Jean-Charles Blais aussi. Et donc il y avait plein de disciplines qui se mélangeaient, en fait. Et il y a eu ce bouillonnement, et il y a eu les transmusicales, voilà, que Hervé Bordier a organisé. Il a organisé les premières transmusicales. Et tout d'un coup, ça a eu un pouvoir d'attraction sur et les médias et les artistes parisiens. Ce qui fait que Rennes est devenue une espèce de genre de capitale du rock assez vite. Et il y a eu cette énergie qui a fait que ça a rejailli sur des gens comme moi, par exemple. Puisque je suis passé au deuxième transmusical en 1980 avec cinq chansons, accompagné par les musiciens de Marquis de Sade, parce que ils s'étaient séparés quelques mois auparavant, que Franck Darcel m'a dit, bon voilà, on est un peu désœuvré, est-ce que tu as envie qu'on arrange tes chansons et qu'on fasse des maquettes ensemble? Alors je dis, bah oui, bien sûr, c'était vraiment des gens que j'aimais beaucoup, c'était des amis, puis en plus j'étais vraiment fan de leur musique. Et voilà, donc les choses ont été assez fluides, assez naturelles. Après, mes relations avec Élie et Jacquenot qui s'étaient prolongées ont fait que c'est Jacquenot qui a produit mon album, que c'est Élie qui a fait la pochette, et qu'elle en a été la muse. Donc, et puis après, voilà, c'est parti comme ça.
Est-ce que, juste, vous pourriez nous parler de la vie à Rennes, à l'époque aussi? Je sais que vous étiez, étudiant. comment était la vie à Rennes à cette époque aussi, qui participait peut-être aussi de cette émulation-là? C'est une ville étudiante, oui. par définition, donc avec beaucoup de jeunes personnes qui ont envie de faire des choses qui commencent. Voilà, est-ce que vous pourriez nous parler de ça?
Alors en fait, comme c'est une ville universitaire, il y a plein de jeunes gens et de jeunes filles qui arrivent et qui s'engouffrent dans les bars et éventuellement dans les universités. Et ça permet vraiment des rencontres, ça permet vraiment des échanges, des mélanges. Et je crois aussi que c'est né de ça, cette espèce de moment, pardon. C'est né de ça, je pense, cette espèce de moment à Rennes, une espèce de bouillonnement, d'énergie, d'intensité, de beaucoup de fêtes, de beaucoup de... La découverte de quelque chose, la découverte qu'on pouvait aussi faire des choses. Tout le monde commençait à prendre une guitare et à chanter, alors que 6 mois avant, on était étudiant.
Et de la vie aussi, par ailleurs.
Et de la ville, forcément, ça a rejailli sur la ville. Il y avait un climat de fête, c'était très festif. À l'époque, il n'y avait pas, évidemment, de téléphone portable ou Internet. Et donc, on savait qu'il y avait deux ou trois endroits où on savait qu'on allait retrouver nos amis et refaire le monde. Et donc, invariablement, c'était tous les soirs jusqu'à très tard. Et ça se prolongeait invariablement dans une boîte qui avait juste à côté d'un souvent, c'était au bar, dans un bar qui s'appelait le bar de l'épée. Et juste à côté, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait le Bachi. C'était une boîte mixte, en fait, à la base gay, mais dans laquelle tout le monde allait. Donc, il y avait une espèce de chose de liberté, comme ça. Il y avait un climat qui faisait que c'était... je sais pas, tout le monde avait envie de se lâcher. C'était un peu en plus... On payait pas souvent, ce qui était quand même important, parce qu'on était tous complètement fauchés, donc on pouvait boire à l'œil. Et en fin de soirée, il y avait mon appartement qui était dans le centre-ville, où tout le monde s'entassait, parce que trop ivre-mort pour entrer chez soi.
Donc c'était la découverte de la vie, notamment.
Dans tous les sens du terme.
Dans tous les sens du terme. Mais cette découverte de la vie-là, vous parliez tout à l'heure du fait que vous alliez découvrir aussi, vous alliez en Angleterre dès 14 ans, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire justement, alors vous nous en avez parlé un petit peu avec cette idée d'aller découvrir cette culture, notamment musicale, anglo-saxonne, est-ce que vous pourriez nous parler aussi de ces voyages en Angleterre?
Alors, ça passait par Saint-Malo, toujours. C'était venir à Saint-Malo en stop, et puis prendre le ferry, et faire Saint-Malo-Portsmouth. Et une fois à Portsmouth, il fallait faire du stop jusqu'à Londres. Voilà. Et à Londres, on se débrouillait. Je me suis retrouvé dans des situations que je ne peux même pas raconter. Mais ça m'a permis, en tout cas, de rester, de séjourner, d'avoir un toit... et qu'avec très 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 peu d'argent, à partir avec vraiment quelques francs en poche, je pouvais subsister tout un été.
Je sais que vos lectures sont William Burroughs, Jack Kerouac notamment. Il y avait un peu cette idée-là aussi du voyage qu'on peut retrouver dans ces...
Un certain romantisme de la défaite, je ne sais pas comment expliquer ça. Vivre dans la rue. Beaucoup l'ont fait. Il y avait cette espèce de chose de romantisme qui a rejailli sur la fin des années 70. Donc, quand j'étais adolescent, c'était vraiment ça. Il y a ce romantisme comme ça, de la désillusion, de ne pas réussir, qui a été complètement inversé au début des années 80, où il y a cette espèce de... d'envie féroce de réussir, de cynisme des années 80, qui est devenue vraiment la décennie du fric et du cynisme. Donc vraiment, c'est vraiment le grand écart sur deux façons de penser complètement différentes. C'était un peu un choc, quand même.
Donc il y a une forme de désillusion ensuite. Comment vous avez vécu, vous qui étiez... Vous viviez justement, vous étiez dans ce mode-là, très, on va dire, libertaire, libre. Comment vous avez vécu ce moment-là des années 80 aussi, dont vous parlez là?
Alors, le succès, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Enfin, je veux dire, on peut faire le meilleur disque du monde, sont les autres qui vous élisent et qui vous choisissent, véritablement, qui vous font une place, qui vous disent, voilà, on t'offre ta place. Et on la prend ou on la prend pas. J'ai eu la chance qu'on m'offre une place, qu'on me trouve suffisamment intéressant pour pouvoir m'offrir cette place. Et j'en ai profité. Avec à la fois, j'étais grisé que de pouvoir faire de la musique, de pouvoir continuer à en faire, de voir qu'il y avait un écho et que je commençais à avoir des gens qui appréciaient ce que je faisais. Et puis à la fois, je vivais le succès avec un peu de culpabilité, avec la sensation que c'était une trahison par rapport à mes amis, par rapport au milieu d'où je venais. Donc les premières années ont été des tiraillements. Et puis l'exposition aussi, qui n'était pas mon fort, je trouvais ça compliqué. Donc il m'a fallu du temps, et j'apprends toujours à accepter d'être regardé, d'être devant. Pas quand je suis sur scène. La scène, c'est un autre type de communication, de langage. C'est chez moi, c'est ma maison et je me sens bien, vraiment. C'est un endroit où je me sens parfaitement bien. Mais c'est le fait de la reconnaissance dans la rue, dans la vie, la vie quotidienne. Je trouve ça toujours un petit peu embarrassant. J'ai toujours du mal avec ça.
Justement, ce mood que vous avez... Alors, j'appelle ça un mood, une forme de sensibilité... de ce que vous vouliez faire passer dans votre musique, dans vos chansons, les thèmes aussi, hein, évidemment, qui sont très présents, évidemment, de l'amour sous toutes ses formes. Est-ce que vous pourriez nous... est-ce que vous pourriez nous parler, justement, à l'époque, vous visualisiez exactement ce que vous vouliez dire, ce que vous vouliez chanter, comment se sont... composer ces morceaux au fil du temps, mais au
c'est
début
très
notamment.
Étrange parce qu'en fait, la première chanson, c'était Il ne dira pas. Donc tout était dit dans Il ne dira pas. je liste, c'est assez drôle, je liste hein, exactement toutes les choses dont je ne parlerai jamais. Et dont j'ai fini par parler, bien sûr. Mais cette chanson, avec le recul, je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai écrite, en fait. On écrit ces chansons, puis on se rend pas compte. Moi, je me dis pas, tiens, je vais écrire sur tel sujet. Ça vient. Ça vient et je réalise après ce que j'ai écrit. Il ne dira pas, j'ai réalisé longtemps après ce qu'elle voulait dire.
Donc sur le...
C'était la famille, là d'où on vient, sa vie affective. Enfin, j'avais listé tout ce dont je ne parlerai pas. C'est marrant.
Est-ce que vous pourriez me dire comment vous composez, comment s'écrivent les morceaux ? J'imagine que ce n'est pas simplement écrire sur un papier, tout ça, une forme spirituelle de vie, une forme d'évolution personnelle, individuelle. Comment s'écrivent-ils justement ces morceaux-là ?
Alors, j'ai toujours une musique en tête, j'ai toujours des musiques en tête, c'est en permanence. Et quand il y a une musique que j'arrive à capturer, elle m'obsède, elle est tout le temps dans ma tête, elle tourne, elle est là, elle s'arrête quand je parle avec d'autres, mais dès que je m'arrête de parler ou d'être en communication avec les autres, elle revient, elle m'obsède, et je l'enregistre maintenant, j'ai la chance d'avoir un dictaphone intégré à mon téléphone, donc c'est parfait. À l'époque, il y a plein de choses que j'oubliais. Et une fois que j'ai la mélodie, en général, elle est définitive, elle bouge rarement. La musique induit ce dont je vais parler. Je ne sais pas encore très bien, c'est pas très clair dans ma tête. Les choses viennent petit à petit. Et le texte vient petit à petit, comme ça, il y a des grandes phrases. Parfois, je suis obligé de... Les textes viennent souvent en marchant. Quand j'étais à Londres, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps, il y a beaucoup d'albums que j'ai fait à Londres, je mets un casque sur les oreilles et je marche dans Londres pendant des heures, ne sachant pas du tout où je vais, et je prends des notes. Je m'arrête pour noter dans un petit calepin. Et quand j'ai suffisamment de notes, souvent même, j'en ai beaucoup trop, par chanson, je peux avoir... Là, il va y avoir un grand bruit. Un grand bruit de porte. Oui, non, non, oui. Oui, ça a été. Et quand vraiment je suis envahi, que ça devient une obsession, que c'est presque douloureux, hein, que c'est presque... Ça m'empêche de respirer. Il faut expulser cette chose-là. Je me mets à la table de travail parce que les choses, il y a une partie des choses qui viennent très naturellement, comme ça, sans les organiser. Et il y a un moment où j'essaie d'organiser toutes ces choses-là. Et là vient la phase qui est plus laborieuse. Alors parfois, il y a des chansons qui viennent comme ça. Elles sont rares. Hein. Elles font partie, mais pas parce qu'il n'y a pas eu de travail dessus, mais elles font souvent partie des chansons que je préfère. Je pense à Au Commencement, par exemple, qui est dans Eden, Bleu comme toi, Le Grand Sommeil, ça, c'est des chansons qui sont venues... tout était là, quoi. La musique, le texte. J'ai rien changé. Et puis d'autres qu'il faut, voilà, rentrer dedans, écrire, se donner un cadre de travail. Parce qu'il n'y a que ça, finalement, au bout du compte. Il n'y a que ce moment-là, finalement, qui fait qu'on arrive au bout des choses. Enfin, en ce qui me concerne, parce que je crois qu'il y a autant de façons d'écrire une chanson que d'artiste. Donc voilà, ma manière de faire les choses, c'est ça. Après, je ne me souviens pas vraiment de comment j'ai écrit. Ce sont des moments qui m'échappent. Ce sont presque des moments d'hypnose, comme si j'étais traversé. Mon corps est traversé. Je vois bien que ma main écrit, que mon bras se déplace. Mais j'ai très peu de souvenirs après.
Donc c'est une forme comme ça de... Enfin oui,
oui, non, oui c'est une forme d'hypnose. C'est une espèce de chose qui est liée à une forme de spiritualité, je crois. Et ça n'est que de la chanson. Enfin, je dis ça n'est que de la chanson. La chanson a toujours une mauvaise réputation d'art mineur. Et à la fois... tellement majeure, parce qu'elle partage, elle contribue à accompagner tellement d'émotions, tellement de morceaux de vie. Donc est-ce que ça c'est mineur ? Moi je le crois pas.
Est-ce que vous pourriez nous parler aussi du moment où vous nous disiez que voilà, il y a des mélodies qui sont là, que vous avez en vous, que vous portez Et ce moment aussi où il y a la mise en musique avec des musiciens, qui devient aussi ce moment où vous travaillez en collectif aussi,
oui.
De fait.
Oui. Alors après cette phase de solitude, il y a cette phase d'une intimité folle quand on travaille avec les musiciens. Faire de la musique ensemble, c'est une intimité folle. Tourner avec des musiciens, c'est fou. Ce qui fait qu'avec ces musiciens, il y a une fraternité qui s'est tissée au fil des ans. Et puis aussi, le fait que je ne sois pas vraiment un musicien parce que je joue très mal de la guitare, fait que j'ai besoin de travailler avec des vrais musiciens, de leur faire comprendre ce que j'ai dans la tête de manière extrêmement précise. Et une fois que j'ai trouvé ces musiciens, je ne les lâche plus. Parce que c'est rare d'arriver à trouver quelqu'un qui comprenne cette communication. Et le fait de ne pas être un musicien académique m'autorise à avoir d'autres idées qu'un véritable musicien qui maîtrise son instrument et qui a une formation classique va trouver étrange. Et en fait, c'est toujours des expériences. Pour les vrais musiciens, travailler aussi avec moi, parce que je les amène dans des territoires qui, au départ, leur semblent étranges, mais qui fonctionnent. Et moi, ça me permet aussi de mettre en forme des choses qui sont dans ma tête.
Alors, il y a différents endroits où vous enregistrez. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces lieux-là aussi, où voilà, la musique se concrétise?
Alors, des studios... Bien qu'aujourd'hui, on travaille chez soi de plus en plus souvent, c'est très cher de faire de la musique. J'essaie aujourd'hui de continuer à travailler selon des schémas assez classiques. J'essaie, en tout cas, le plus que possible avec mes derniers albums, de travailler sur bande, par exemple, d'enregistrer toujours sur bande parce qu'il y a cette qualité de son. On enregistre une basse et une batterie et tout de suite, cet ensemble, c'est une chose magique qu'on ne peut pas expliquer. C'est le son, quoi. Et donc voilà, il y a un travail préalable qui est assez long chez soi, en home studio, et puis une fois qu'on est prêt, je ne travaille plus comme avant, où je faisais des albums qui duraient 6 mois en studio, qui coûtaient vraiment la peau du cul, mais l'économie était aussi différente. On vendait beaucoup plus de disques, il y avait cette économie qui permettait de travailler en studio beaucoup plus longtemps, de faire de la recherche en studio, alors qu'aujourd'hui, on est contraint à une autre manière de travailler. Ce qui a modifié aussi le son, toute cette nouvelle génération qui a des arrangements très minimalistes, c'est aussi une des conséquences de ça. Du peu de temps et du peu de moyens qu'il y a aujourd'hui dans la musique.
Par ailleurs, donc on parlait des musiciens, vous avez travaillé avec de nombreux musiciens, mais vous avez travaillé avec beaucoup aussi de chanteurs, je disais dans la présentation, enfin, Brigitte Fontaine, Jacques Nau, Daniel Darc, je les citais en début. Qu'est-ce que vous allez chercher justement dans ces rencontres-là avec d'autres chanteurs pour le coup? Il y a beaucoup de femmes aussi, notamment. Pourquoi vous allez demander, enfin comment se tissent justement ces rencontres?
Alors d'abord, je ne demande jamais. On vient me chercher. Parce que d'abord, je n'aime pas demander parce que je ne veux pas essuyer un refus. Et puis en fait, non, vraiment, si je réfléchis, je ne suis jamais allé demander à qui que ce soit. Ce sont les autres qui sont venus chercher dans ma musique quelque chose qu'ils voulaient dans la leur. Il se trouve que la plupart des gens qui m'ont approché, il y a pas mal de choses auxquelles je dis non parce que par manque de temps aussi. Mais c'est une partie de mon travail au-delà de mon propre travail, c'est-à-dire mes albums, l'écriture de mes chansons, les tournées, etc. Il y a aussi l'aspect production pour d'autres artistes dont j'ai besoin pour sortir de moi. Je trouve qu'après une tournée où j'ai donné des tas d'interviews, vraiment j'ai fait l'expérience de l'égocentrisme poussé à son paroxysme, où j'ai raconté depuis que j'ai des couches jusqu'à un passé récent. Au bout d'un moment, ça m'insupporte et c'est très difficile pour moi. Et je trouve ça très rafraîchissant d'aller travailler pour d'autres, de tomber amoureux des autres. Et quand je dis tomber amoureux, c'est vraiment que les autres deviennent une obsession pour pouvoir rentrer dans leur travail et pouvoir avoir une vision et travailler sur leur, sur leur, sur leur album. Alors effectivement, comme, comme vous le disiez, il y a beaucoup de femmes aussi. C'est vrai que c'est une relation assez complémentaire. Je travaille avec des femmes qui sont incroyables. Hein. Marianne Faithfull, Debbie Harry, Françoise Hardy, Jane Birkin, là, dont je fais le prochain album. Oui, Jeanne Moreau, enfin, je veux dire, la liste est très très longue. Et vraiment, ce sont des, vraiment à chaque fois des personnalités très fortes. C'est-à-dire qu'aussi, je dis que c'est une relation complémentaire dans le travail, mais au-delà du fait que ce soit des femmes, ce sont des, avant tout des artistes et des êtres d'exception. C'est un échange. C'est un échange. Il y a aussi des hommes avec lesquels j'ai travaillé sont aussi assez incroyables. Ça va être Dominique Cage, Jacques Dutronc, effectivement, Daniel Darc, Bill Pritchard. Plein. Mais là, par exemple, je viens de faire un duo avec Malik Judy. Ça marche très bien aussi. Je pense que c'est une question d'équilibre de personnalité et d'équilibre dans les voix et dans les fréquences. Parce qu'une rencontre avec quelqu'un, tout est sexualisé, en fait, d'une certaine manière. Tout chaque rencontre, je ne veux pas dire que c'est sexuel, mais toute chaque rencontre avec qui que ce soit est à un certain niveau sexualisé. C'est comme ça. Après, on accepte de le ressentir, de le réaliser ou pas, mais il y a ça.
Justement, on parle de ces rencontres, de ce moment de... est-ce que vous pourriez nous dire les... Enfin, vous avez un morceau qui s'intitule « Les liens d'Eros », justement. Mm-hmm. Ce que je voudrais dire par là, c'est... Est-ce... Voilà, j'ai l'avantage de pouvoir faire une interview avec vous. Et donc, j'ai choisi dans votre discographie quelques morceaux que j'apprécie et je voudrais que vous nous en parliez. Alors, comme vous le souhaitez. Voilà, la manière dont il a été enregistré. Et notamment, on parlait des liens d'Eros là à l'instant. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce morceau, par exemple? Est-ce que,
Ah oui, c'est un grand morceau pour moi. Il fait partie d'un album qui s'appelle Révolution, qui ressort là prochainement. Et j'aime beaucoup Marianne Faithfull. J'adore sa voix. J'adore sa voix, j'adore son parcours, j'adore qui elle est. C'est vraiment quelqu'un dont je me sens proche. Et j'avais envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Elle est la petite fille de Sadomasoch, qui a écrit La Vénus en fourrure, qui a donné le nom sadomasochisme. Donc elle a quand même une lignée. Le pédigré de Marianne est quand même déjà très chargé. Et donc je lui ai demandé de lire l'introduction, enfin un extrait de La Vénus en fourrure dans l'introduction de cette chanson qui parle de sadomasochisme, d'un homme qui se fait vraiment massacrer émotionnellement par une femme. Et voilà, je trouvais que c'était quelque chose que j'avais envie d'exploiter parce qu'en fait, Venus in Furs est aussi une chanson du Velvet Underground, qui est mon groupe fétiche. Et donc j'avais lu ce roman quand j'étais très adolescent, ça m'avait beaucoup marqué en fait. Mais au-delà, en le relisant, c'est moins un livre sur le sadomasochisme que sur la mode. Parce qu'en fait, dans le bouquin, on n'arrête pas de parler de tenue, etc. Et donc c'est assez une espèce de frivolité de ça.
D'accord. Alors je prends un peu comme ça, au débeauté, en vrac, on va dire. Hein. Mais si on devait parler de ce morceau qui s'intitule L'Adoré, qui était dans cet album, L'Invitation, c'est un peu... voilà, mais c'est vraiment cette idée de ce morceau, L'Adoré, L'Invitation, par exemple.
Alors L'Adoré, il est important à... C'est à deux lectures, en fait. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai beaucoup écrit sur le rapport à l'autre avec un grand A. Et que l'adorer a marqué la fin de ce type d'écriture qui est lié à la relation à l'autre, à la passion, bien sûr, qui forcément est assez destructrice, mais qui fait vibrer, qui fait crépiter, quoi, vraiment. Et l'adorer est un terme à ça. Après cette chanson, je n'ai plus jamais écrit comme ça. Et d'ailleurs, c'est marrant le lien avec la chanson précédente, parce qu'en fait, c'était pour Marianne, cette musique. On l'avait écrite pour Marianne avec les Valentins, et Marianne habitait la maison quelque temps. Et j'avais travaillé avec elle pour un de ses albums qui s'appelle Kissing Time, dans lequel il y avait plein d'autres gens comme Blur, Pulp, etc. Et Marianne n'a pas pris cette chanson, elle en a pris une autre, et j'arrivais pas à trouver le texte. En fait, j'étais en plein dans cette relation qui est comme une relation d'apprentissage sur soi-même. Et à un moment, quand la relation s'est terminée, pour moi c'était un point final, et j'ai écrit l'adorer, désadorer l'adorer. Voilà. Et de ce moment-là, mon écriture a vraiment changé, elle est devenue beaucoup plus universelle. Parce que je suis sorti de cette chose-là, en fait, de cette chose de la relation à deux, qui était quelque chose qui m'a longtemps taraudé, qui m'a longtemps passionné aussi.
Justement, est-ce qu'on pourrait parler de ce morceau « Soleil de minuit » qui figure dans l'album « Collection », c'est ça, qui était un album de phase B, de morceaux qui ont vu le jour, mais qui ne devaient peut-être pas. Enfin, est-ce que vous pourriez nous parler de ce morceau-là, « Soleil de minuit » ?
Ah oui, c'est une chanson que j'avais écrite avec Franck Darcel. Tout début, quand on a commencé à travailler ensemble. Et cette chanson, je l'avais écrite pour Harry Boulogne, qui est le fils de Nico, qui était un ami que je voyais beaucoup à ce moment-là. Et c'est une façon de célébrer notre nomadisme de l'époque. Et la découverte de plein de choses ensemble, de livres, de climat. Et Soleil de minuit, c'est un climat. Cette chanson restait en friche, elle n'est jamais sortie. Et Olivia Sayas, dans les années, milieu des années 80, m'a demandé une chanson. Et je trouvais que cette chanson était parfaite avec ce film, dans lequel il m'avait demandé de jouer. Enfin, je disais entre guillemets, parce que c'était pas joué vraiment. J'étais bassiste ou batteur d'un groupe qui s'appelait Les Rats. Et je traverse un peu l'écran en courant, mais j'aime beaucoup Olivier. Enfin, j'étais grisé à l'idée d'être au générique d'un film. Et donc, je lui ai donné cette chanson. Et d'ailleurs, c'est ce jour-là, Nico, justement, est venu en studio avec Harry, son fils. Et ils ont passé tout l'après-midi avec nous pendant l'enregistrement de cette chanson. Ça reste un moment comme ça, assez fort pour moi, vraiment.
Alors, je continue ma petite liste. On ne va pas tous les faire parce qu'il y en a tellement. Mais est-ce que vous pourriez me parler aussi de ce morceau dont on parlait en aparté, qui s'intitule « Ouverture », qui est de cet album « Corps et âme », qui est sorti en 2000. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce morceau-là ?
Oui, c'est un morceau d'ouverture d'album et d'ouverture tout court. C'est l'éblouissement de l'amour, en fait, quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit tiens, ça ressemble à tout ce dont on m'avait parlé avant, mais que j'avais pas encore capté ou vécu. Et c'est un merveilleux bouleversement, en fait. Cette chanson raconte la rencontre. Hein, elle est. Il y a très peu de chansons comme ça dans mon répertoire. Elle raconte le parcours de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on suit la personne, en fait. On est avec. On est avec la personne qui avance et qui rentre dans cet endroit, qui voit cette personne, qui est éblouie, qui s'ouvre, voilà. Et c'est une chanson qui est passée peut-être un peu inaperçue quand elle est sortie et qui est devenue avec le temps presque ma chanson la plus importante. Pour les gens qui aiment vraiment mon travail, c'est... Enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, c'est Weekend à Rome, parce que c'est comme une espèce de bulle de légèreté des années 80, et que si on leur pose la question, un mec dans la rue va dire oui, ça. Mais pour les gens qui aiment vraiment mon travail, je pense que c'est Ouverture qui vraiment a pris le. C'est l'autre face de la médaille, en fait.
Alors, venons-en aux deux derniers morceaux sur lesquels j'aimerais bien que vous me parliez, qui sont les morceaux de votre dernier album qui s'intitule Blitz, ouais. Qui est sorti en 2017. Et tout d'abord, ce morceau qui était sorti comme ça en single, qui s'intitulait L'étincelle. Est-ce que vous pourriez nous parler de L'étincelle ?
L'étincelle, c'était vraiment un titre sur les oubliés, sur les outcasts. au moment des, justement des Gilets jaunes, elle, c'était la BO parfaite, quoi. Elle était, c'était vraiment, ça racontait ça, quoi. C'était un peu comme une anticipation. Oui, c'est une chanson sur les gens qui ont des difficultés avec leur vie, quoi. Alors, ça peut être financier, ça peut être émotionnel. L'étincelle, c'est l'exclusion et le feu qui continue de brûler en soi, l'envie.
Et ce dernier morceau qui s'intitule The Deep End, qui est composé avec un groupe que vous aimez beaucoup, ouais, actuellement, qui s'intitule Unloved. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce morceau-là, The Deep End ?
Alors, le dernier album, Blitz, il a été très inspiré par Unloved, justement. J'écoutais leur album en permanence quand il est sorti. Et j'ai appris, j'étais à Londres à ce moment-là, j'ai appris qu'ils faisaient un DJ set à l'autre bout de Londres. Et j'ai traversé Londres, le métro ne marchait pas, je ne trouvais pas de taxi, je suis arrivé en retard. J'arrive, il y a 300 personnes devant Rough Trade, le magasin dans lequel ils se produisaient. Je me dis, là c'est cuit, bon je pars. Et au moment où je pars, je me retourne et je me télescope dans quelqu'un. Et cette personne, c'était David Holmes, qui est un des trois musiciens du groupe. C'est incroyable, le destin. Et mon destin est toujours... j'ai vraiment une chance inouïe, je trouve. Et ça, c'est aussi la chance. C'est aussi ma chance, caresser la chance, quoi. Savoir que j'aurais pu rentrer chez moi. Et ils ont changé ma vie, j'ai changé la leur. Parce que on a parlé, je leur ai dit l'enthousiasme que j'avais, à quel point j'aimais ce disque. Ils ont pris mon email, je me suis dit, voilà, ils ont dû me prendre. Je ne me suis pas présenté. Non, ils ont dû me prendre pour un fan un peu intense. Et en fait, ils m'ont rappelé. Et on s'est vu et on s'est plu. Et on a travaillé ensemble sur mon dernier album, sur plusieurs titres. Et ils sont venus me visiter à Saint-Malo, à Noël, il y a 2 ans. Et ils ont tellement aimé Saint-Malo, qu'ils ont quitté Los Angeles et qu'ils sont installés ici. Et voilà, ce qui est super, parce que ça me permet de les avoir pas loin. Donc les deux musiciens qui habitent ici sont Kifus Stiancia, qu'on connaît aussi parce qu'il a fait plein de musique, de films et de BO pour des séries comme True Detective, ou plus récemment Killing Eve, pour lequel il a eu les BAFTA et plein de prix partout. Et la chanteuse Jade Vincent, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel, véritablement. Et donc cette chanson, The Deep End, que je chante en duo avec elle, ce qui est quand même génial, vraiment, du petit rêve que j'avais dans la tête, les choses se sont concrétisées avec une fluidité absolument incroyable. Et surtout, quand elle m'a amené ce titre, qui s'appelait déjà The Deep End, je pensais qu'elle savait que Deep End, le film de Jerzy Skolimowski, était mon film préféré au monde. Et pas du tout. Donc j'ai vu encore un signe supplémentaire. Et donc je lui ai offert le film qu'elle n'avait pas vu. Et d'ailleurs, je recommande violemment à tous les gens qui vont nous écouter Deep End de Jerzy Skolimowski, si vous ne l'avez pas vu.
Alors là, on parlait notamment de l'enregistrement, de ses productions studio. Mais à un moment donné aussi, il y a le moment essentiel qui est aussi ce moment avec le public. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce moment de la scène, cette expérience toute particulière, très singulière. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça ?
C'est marrant parce qu'en fait, j'ai commencé sur scène au Transmusical. Mon premier contact avec la réalité de ce que j'étais en train de faire, c'était vraiment les Transmusical. C'est un concert de 5 chansons, accompagné par les musiciens de Marquis de Sade. Et puis après... J'ai attendu un petit peu avant d'avoir un vrai répertoire, d'avoir 2 albums et demi à peu près, avant de vraiment commencer à tourner. Au début, c'était une fête, c'était une occasion de vivre le mythe du rock'n'roll, à savoir dormir 14 secondes par nuit, avaler tout ce qui se présente, etc., etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à véritablement aimer ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment des fêtes. Je chantais devant des gens qui avaient à peu près mon âge ou un peu plus jeune et qui étaient à peu près des miroirs. Je pense particulièrement l'album Pop Satori, qui a été vraiment une espèce de truc explosif, de succès, d'impact médiatique, de ce que je représentais à ce moment-là, genre le chef de file de la pop française. Ça me terrifiait, moi, ces trucs-là, à l'époque. Je comprenais pas. C'était... J'avais peur de ces choses extrêmes, en fait. Et j'ai commencé vraiment à trouver un autre type de plaisir, à savoir y mettre autre chose dans les concerts, à savoir ne pas être... voilà, on arrive, c'est la fête, on est avec les musiciens, on nous jette des culottes sur scène, et voilà, on est content. C'est un peu ça. Tout d'un coup, c'est devenu plus profond. J'ai changé, le répertoire a changé, le public a changé, il a mûri, il s'est rajeuni aussi. Les choses sont devenues plus profondes, et cette relation qui au départ était une relation de légèreté, de plaisir léger, c'est devenu véritablement quelque chose que j'arrive à maîtriser. Quand je dis maîtriser, c'est pas enfermé dans une maîtrise sans émotion, au contraire. C'est-à-dire que le fait de maîtriser et d'être beaucoup plus libéré me fait sortir du... Avant, j'étais vraiment un freak contrôle, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que je maîtrise tout, que je surveille tout. Et il y a peut-être des gens qui vont dire... Qui vont rire de m'entendre parler de ça au passé. j'ai beaucoup plus confiance, en fait. Et en moi. Et comme j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance dans les autres. Et donc, c'est un abandon. Et vraiment, la dernière tournée, sur l'album Blitz, ça a été vraiment un bonheur, quoi. Chaque tournée qui avance est à chaque fois beaucoup plus profonde, beaucoup plus joyeuse, très riche. C'est un véritable échange, parce que c'est une circulation d'énergie, de ce que j'envoie, de ce qui est capté par le public, de ce que le public me renvoie, de ce que moi je récupère, de ce que je renvoie. C'est une espèce de chose circulaire comme ça. Et c'est vrai qu'en aparté, on a parlé aussi de ce moment de l'hypnose collective. Il faut savoir que tout le monde est dans l'instant. Mis à part les gens qui s'acharnent toujours à filmer, à photographier, et qui, hélas pour eux, mettent un filtre entre ce qui est en train de se passer, un écran plus exactement, entre ce qui est en train de se passer et eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne regardent les concerts qu'à travers leur écran, quoi. C'est quand même fou. Alors qu'ils sont là, ici, maintenant, pour absorber quelque chose de l'instant qui est beaucoup plus fort et dont on se souvient bien mieux qu'un bout d'enregistrement qui sonnera mal, qui ne sera pas bien. On entend surtout le voisin qui chante comme un pied. Ou...
Ce moment du présent, là, d'être vraiment dans l'existence... au présent, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots dessus ?
Oui, parce que on est toujours coincé entre le futur, le passé. On est toujours tiraillé entre ces deux choses. Et arriver à être dans l'instant, c'est rarissime. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était une gymnastique d'y parvenir. Et j'y parviens de temps en temps. Mais je passe mon temps à projeter, en fait, à être toujours dans ce qui va arriver, ce qui est une erreur, parce que ça m'évite d'apprécier exactement le moment présent. Le moment présent, en fait, on l'apprécie, je sais pas, dans des choses très très précises. Par exemple, chanter. Quand je chante, c'est l'instant présent. Chanter ou faire l'amour, par exemple, on est dans l'instant présent. On n'est pas tiraillé. On est dans le moment.
Et d'une certaine manière...
J'en associe les deux, et je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là, quand même. Il y a un truc comme ça.
Ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que l'artiste se fait un peu le médium, le médiateur, je ne sais pas, d'une forme de sensibilité, que le public vient chercher des émotions qu'il a en lui et que l'artiste va permettre de lui faire vivre. Est-ce que ce serait juste ? Comment vous le penseriez, ça, ce rapport-là ?
Je crois surtout... Je peux en parler parce qu'en fait, moi, j'ai ça par rapport aux autres artistes, à savoir que les autres artistes sont une voix pour moi. Tous les artistes qui m'ont fait pousser, qui m'ont inspiré, que j'ai admiré et que j'admire encore, ils sont une voix pour moi. Ils ont dit des choses que moi, je ne savais pas dire. Et donc, mon succès est la preuve que je peux être une voix aussi pour des gens, pour les autres. Donc, je le comprends bien parce que moi, je le suis. Enfin, les autres artistes sont une voix pour moi. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est ressentir qu'une chanson va parler de vous mieux que vous ne sauriez le dire vous-même. Je pense que c'est ça, en fait. Chaque artiste transforme la réalité de manière à la faire circuler dans la rue et on l'attrape, on se dit, mais ça, c'est moi, c'est ma vie. J'ai ça. Je vis ça. Ça raconte ce que je traverse. Je sais pas si je réponds à la question, mais.
Et justement, vous parliez tout à l'heure de ce moment qui est une communion, qui est aussi proche du rapport amoureux. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui est la singularité du mood d'Ao, de ce que vous faites passer? Voilà, quelle est cette sensibilité singulière dans laquelle ils vont se retrouver, justement?
Joker. Je ne sais pas du tout, c'est difficile de l'analyser, je trouve. Là, j'ai tenté de répondre à plein de questions, mais c'est vraiment la chose que je suis incapable d'analyser. Là-dessus, j'en sais rien, puisqu'en fait, c'est moi. Donc, j'écris ce que je ressens, et je vois des gens qui viennent, justement, comme je le disais précédemment, parce que tout d'un coup, ils ressentent qu'il y a une famille d'esprit aussi, qu'il y a quelque chose qui leur parle. Qui parlent à leur quotidien, à leur sensibilité, que ça accompagne que c'est la BO de leur vie.
On parlait de l'amour, j'imagine aussi que le public se retrouve aussi sous voilà, l'amour, sous toutes ces formes que vous chantez aussi. Il y a ça
Alors,
que vous.
Plus que sous toutes ces formes, c'est plutôt un amour universel. Parce qu'on peut pas fragmenter en fait. Enfin moi je n'y arrive pas. Je peux pas fragmenter ce sentiment. Pour moi il est universel. Et puis il a plein de formes. Il peut être platonique. Il peut être. Je sais pas. Il peut être plein de choses. Tout en étant aussi intense. L'essentiel étant de ne pas l'enfermer dans une définition. Où là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus ennuyeux, on va dire.
Bah, ça me paraît pas mal de terminer là-dessus,
non.
je trouve. Bah, Étienne Dao, merci donc pour cet entretien à Saint-Malo, en face de la mer. On a la chance
Ah
d'avoir
oui,
vu la lumière et le soleil réapparaître.
On a en face de nous un film magnifique avec des lumières magnifiques. Des vagues, un ciel qui était en colère il n'y a pas longtemps, mais qui s'est apaisé.
Très
Voilà.
bien. Merci Étienne Nao.
Merci. Merci à vous.